au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Au fil des pages s'intéresse au livre de Guy Laval, L'énergie bleue, paru en 2007 aux éditions Odile Jacob. L'énergie bleue, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'énergie nucléaire de fusion que l'on observe depuis de longues années avec les étoiles, et en premier lieu le Soleil, et à ne pas confondre bien sûr avec l'énergie nucléaire de fission que nous produisons actuellement dans nos centrales. L'énergie nucléaire de fusion présenterait plusieurs avantages, des ressources disponibles abondantes et peu coûteuses, peu de déchets radioactifs à vie longue, 100 ans maximum, et une baisse de production de gaz à effet de serre. Mais bien des problèmes technologiques doivent être résolus, comme comment maintenir cette énergie nucléaire, quels matériaux peuvent résister à une température de 100 millions de degrés nécessaire à la fusion des deux isotopes, et saurons-nous rendre cette énergie rentable économiquement. Le projet ITER à Cadarache, dont la construction doit se terminer vers 2018, a pour but de répondre à ces questions. Guy Laval, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie au cœur de l'Institut de France. Vous êtes physicien, directeur de recherche émérite au CNRS, membre de l'Académie des sciences dans la section physique. J'ajoute que vous êtes depuis janvier 2008 délégué aux relations internationales, ici à l'Institut de France et plus particulièrement en ce qui concerne l'Académie des sciences. Nous avions réalisé une première émission à vos côtés consacrée à ITER. Nous invitons d'ailleurs nos auditeurs à la télécharger. Elle est en libre écoute dans notre médiathèque. Avec votre livre « L'énergie bleue », vous retracez l'histoire de la recherche en matière de fusion nucléaire. Nous allons y revenir dans quelques instants. Auparavant, avec votre accord, j'aimerais débuter, si vous le voulez bien, par les premières pages de votre livre qui sont une extrapolation d'un possible discours d'inauguration d'une première centrale nucléaire électrique fonctionnant à partir de la fusion nucléaire à une date, bien sûr, indéterminée. Alors, je commence, si vous le voulez bien. Ce sont des extraits, donc vous me direz si en tronquant, j'ai modifié votre propos. L'Europe et l'humanité entière verront ce jour comme la fin d'une époque de restrictions et le début d'un nouveau développement industriel. Réduction des émissions de gaz à effet de serre, plus d'inquiétude sur la pénurie des combustibles fossiles. La solution de la fusion nucléaire s'est heurtée à des oppositions politiques fortes, crainte d'un accident nucléaire, des risques de dissémination de l'arme atomique et des réticences sociétales au stockage des déchets. Il faudra attendre une bonne centaine d'années avant de recycler les matériaux radioactifs provenant des parois irradiées de la chambre de réaction. Oui, ce réacteur produit son énergie à partir de la fusion du deutérium et du tritium. Le deutérium extrait de l'eau de mer est inoffensif. En revanche, le tritium nous donne des soucis qu'il ne faut ni sous-estimer ni exagérer. Guy Laval, vous avez imaginé ce discours qui est, on l'a bien compris, en demi-teinte. Alors, quelle est votre position, pour commencer, la première question, quelle est votre position concernant la possible utilisation de l'énergie nucléaire de fusion ? Est-ce risqué ? Est-ce irréaliste ?
Alors, ce n'est pas risqué, puisque précisément, la fusion a pour avantage, en plus de ceux que vous avez cités, elle a pour grand avantage de ne pas présenter de risques accidentels, en tout cas de nature nucléaire. Donc, on se débarrasse également de tout souci du type accident de Tchernobyl ou Three Miles Island, d'accidents qui généreraient des quantités importantes de matériaux radioactifs qui pourraient se déverser sur l'environnement.
Pourquoi aucun accident ne serait impossible ?
Aucun accident n'est possible.
Oui, pardon.
Aucun accident n'est possible.
Pourquoi ?
Alors, pourquoi ? Parce que dans une centrale à fission, dans un réacteur à fission, eh bien, vous disposez en permanence, dans le réacteur, le combustible qui correspond à un an de fonctionnement. Ce qui correspond à une quantité gigantesque d'énergie libérable. Et cette énergie, bien entendu, le problème est de la libérer au rythme qui nous convient, c'est-à-dire au rythme des besoins d'une centrale électrique ordinaire. Ça n'est d'ailleurs pas très très facile, mais on y arrive très bien, on arrive très bien à les contrôler. Et l'accident nucléaire, c'est une libération brutale de cette énergie qui normalement doit se libérer sur un an, en un temps très court, qui du coup crée les conditions d'une explosion.
Aujourd'hui, les scientifiques sont divisés sur la question de la fusion nucléaire ?
Les scientifiques sont divisés sur la question de la fusion nucléaire, effectivement, parce que un bon nombre estiment que les résultats actuels ne permettent pas d'imaginer une exploitation industrielle suffisamment tôt pour pouvoir porter remède aux dégâts provoqués par les gaz à effet de serre libérés par les combustibles fossiles. Donc ils estiment qu'ils arriveront trop tard et que si on attendait la fusion pour arrêter de consommer du pétrole, eh bien l'atmosphère serait déjà trop polluée.
Pour aborder quand même plus votre livre en profondeur, donc comme je vous le disais, c'est un historique, hein, l'histoire de la recherche en matière de fusion. Ce qui est intéressant, c'est que dans les premières pages de votre livre, vous expliquez que les Français sont vraiment novateurs hein, dans la recherche, dans cette recherche-là. Beaucoup de Français ont travaillé sur la question. Et pourtant, quand on avance dans votre livre, vous parlez essentiellement des Américains, des Soviétiques et de cette course un peu à la recherche pendant la guerre froide.
Effectivement, la fusion a été une recherche très prestigieuse et les grandes puissances de l'époque, comme dans le domaine de l'exploration spatiale, il y a eu une compétition aux performances les plus spectaculaires atteintes le plus tôt possible. Et les Américains et les Soviétiques se sont bien battus, ce qui d'ailleurs a été extrêmement stimulant pour les avancées de la fusion, en particulier dans les premières années, dans les 10 ou 15 premières années. Cette compétition a été extrêmement efficace. Ensuite, l'Europe est arrivée sur le champ de bataille et a joué un peu les outsiders en captant l'essentiel de ce qui restait comme enthousiasme et finalement en dominant assez rapidement à la fois les Américains et les Soviétiques, et en prenant la tête de la marche vers la fusion.
Alors, vous parlez d'enthousiasme. Les recherches commencent dans les années 30, hein, si je me trompe. Et plusieurs fois, les Américains et les Soviétiques, chacun de leur côté, pensent avoir fait des découvertes, finalement échouent, recommencent plusieurs fois, jusqu'à ce que les Français fabriquent leur propre tokamak et là, pulvérisent les records, pulvérisent en fait les résultats.
En fait, il faut bien distinguer entre la conception des expériences, c'est-à-dire les idées de base qui ont permis d'aboutir aux expériences, et les expériences elles-mêmes. Les expériences sur lesquelles on se base aujourd'hui ont toutes été inventées par les Américains et les Russes. Et la France n'a pas été très novatrice dans les débuts. Il faut dire que les principes de ces expériences sont très anciens, et à une époque où l'Europe ne s'intéressait pas encore réellement à la fusion. Et donc, en ce qui concerne les principes, il faut reconnaître que les Américains et les Russes ont été à la base des concepts qui sont utilisés aujourd'hui dans les machines actuelles. Maintenant, les Français ont effectivement fait un beau coup. Ils ont réussi à prendre le devant de la course lorsqu'ils ont construit leur premier grand tokamak, qui était donc construit à Fontenay-aux-Roses, et qui, très rapidement, a atteint des performances supérieures à celles qu'avaient les Russes à l'époque. Et ceci grâce essentiellement à l'habileté technique d'un grand scientifique qui s'appelle Paul-Henri Rebut, et qui d'ailleurs, par la suite, a pris la direction du JET, qui est donc devenue la machine vedette qui existe encore, qui fonctionne encore, et qui continue à produire d'excellents résultats.
ITER est donc le troisième élément qui arrive en France. C'était donc une évidence qu'ITER arrive en France et non pas au Japon ou aux États-Unis. La question se posait de savoir où on allait implanter le projet ITER.
Je ne dirais pas que c'était une évidence. Je pense que le ITER aurait pu être construit dans d'autres pays de manière tout à fait normale, et d'autres pays méritaient d'accueillir ITER. Mais il fallait encore qu'ils en aient la volonté. Je crois que la détermination d'abord des Européens puis des Français à avoir ITER chez eux a beaucoup fait dans le fait que ITER a atterri à Cadarache. Je crois que les autres pays, probablement, n'étaient pas prêts à faire les sacrifices, de consentir les frais d'organisation nécessaires pour construire ça chez eux.
Et pourtant, de grandes questions demeurent. Alors justement, revenons à nos questions. Et est-ce que cette énergie nucléaire de fusion, pour le moment très difficile hein, à obtenir, est-ce qu'on pourra la rendre rentable économiquement? Puisqu'à présent, pour produire une telle énergie, il faut dépenser plus d'énergie.
Alors, le problème est très compliqué. Il est très très difficile aujourd'hui, même absolument impossible, de faire des calculs fiables de rentabilité de l'énergie de fusion dans l'état où nous sommes actuellement. Et ceci essentiellement parce que nous ne prévoyons l'utilisation industrielle de l'énergie de fusion que dans les Certains disent dans 50 ans, d'autres un peu moins, d'autres un peu plus. Mais enfin, c'est dans l'ordre de grandeur de plusieurs dizaines d'années. Et il est bien évident que la technologie va évoluer pendant ce temps-là. Donc les technologies qui seront disponibles au moment où on voudra utiliser la fusion, eh bien, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et on n'en connaît pas les détails, on n'en connaît pas les coûts. Donc il est très difficile aujourd'hui de calculer des coûts. Malgré tout, il y a eu des calculs de coûts qui ont été effectués en supposant qu'on utilise les technologies dont on dispose aujourd'hui. Et ces calculs de coûts tombent dans des fourchettes qui ne sont pas les meilleures qui existent, qui n'arrivent que difficilement à atteindre les coûts de l'énergie de fission, mais malgré tout, qui ne sont pas loin. Donc, ça veut dire qu'on est tout de même dans des fourchettes acceptables et il est vraisemblable que s'il n'y reste plus que ça, si la seule ressource possible, c'est la fusion, eh bien, on pourra produire de l'énergie de fusion à des coûts qui sont raisonnables pour l'exploitation industrielle. Maintenant, il faut encore résoudre des problèmes qui permettent d'y arriver et qui sont nombreux.
ITER, vous l'expliquez dans votre livre, au départ devait être un projet très très ambitieux sur un plan sur le plan du coût. Hein, vous en parliez à l'instant. Et justement, pour que ce soit réellement faisable et accepté par tous, il a fallu réduire le coût de 50%. Oui. Est-ce que finalement cette recherche ITER, ce projet ITER, n'est pas quelque chose soldé en quelque sorte? Promotion 50%.
Alors c'est une bonne image, surtout à cette époque de l'année. Je pense qu'il est difficile de dire. Enfin, je pense que les gens qui ont conçu cette nouvelle version d'ITER auraient du mal à accepter l'expression de soldé. Mais la vérité, c'est que la première version d'ITER, non seulement était très coûteuse, mais elle était très difficile à construire. Elle est vraiment aux limites extrêmes des capacités de construction de l'époque en ce qui concerne la technologie utilisée. Donc, le passage à cette nouvelle version d'ITER non seulement a réduit les coûts, ce qui a rendu l'expérience beaucoup plus acceptable, mais également rendu la sûreté de construction et la facilité de construction beaucoup plus acceptable que ça ne l'était dans la machine initiale.
Pour poursuivre sur cette notion de coût, venons-en aux matériaux qui vont être utilisés, puisque pour faire la fusion de ces deux isotopes qui vont produire cette énergie nucléaire de fusion, il faut une température de 100 millions de degrés. Comment trouver des matériaux qui résistent à une telle température et puis également à une telle radiation?
C'est tout à fait exact ce que vous avez dit. Il y a deux problèmes. Il y a la résistance des matériaux à la température, donc à la chaleur qui va arriver sur les parois. Et puis, il y a le problème des radiations, qui sont essentiellement des radiations neutroniques qui proviennent des réactions de fusion et qui vont bombarder le matériau. Alors, le premier problème, celui de la tenue des matériaux donc au flux thermique, ce problème semble relativement facile à résoudre. Il n'est pas résolu, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui paraît monstrueusement difficile à résoudre. Parce que on peut toujours, il s'agit d'évacuer de la chaleur suffisamment vite pour que elle ne détruise pas les matériaux et ça, on a des idées. Par contre, le deuxième problème qui est la tenue des matériaux aux neutrons est un problème beaucoup plus difficile à résoudre parce que les neutrons ont tendance à détruire petit à petit la résistance et la structure du matériau qui va constituer les murs du système. Et il faudra donc changer périodiquement ces matériaux et cela risque de coûter beaucoup trop cher pour qu'on puisse aboutir à une utilisation industrielle acceptable. Alors ce n'est pas le cas dans ITER. Dans ITER, les flux de neutrons sont trop faibles pour que ce problème se pose réellement. Mais ça sera le cas le jour où on construira un véritable réacteur fonctionnant toute l'année, 24/24, et où trop rapidement en tout cas, on aboutira donc à une destruction de la résistance de ces matériaux. Alors on travaille beaucoup dessus, beaucoup d'études sont effectuées aujourd'hui, et les meilleurs experts, quand on leur pose la question, répondent qu'à leur avis, le problème est soluble. Mais ils ne savent pas quand. Et à leur avis, il y a des solutions. On peut trouver des matériaux qui résistent à ces neutrons suffisamment longtemps pour que le remplacement de ces murs ne soit pas trop fréquent, mais la solution n'existe pas aujourd'hui de manière explicite. Il faut donc attendre, et la difficulté, c'est qu'on ne sait pas combien de temps il va falloir attendre avant qu'on ait ces matériaux à notre disposition.
Alors, dans l'optique où nous sommes positifs, cette énergie nucléaire de fusion est possible, rentable. On produit, on construit des réacteurs nucléaires de fusion. Que vont devenir les quelques matériaux radioactifs ? Parce que, justement, il est expliqué qu'il y aura des déchets radioactifs, mais de courte durée. Pourquoi seront-ils de courte durée ?
Alors, ils seront de courte durée parce que les matériaux qu'on va utiliser, donc ces déchets radioactifs proviennent de l'irradiation des matériaux qui servent de paroi pour contenir cette matière à très haute température. Et ces matériaux, initialement, ne sont pas radioactifs, bien sûr. Et c'est sous l'effet du bombardement par les neutrons qu'ils deviennent radioactifs. Alors, devenant radioactifs, donc, ils présentent un certain danger, mais ces matériaux sont constitués par des noyaux de métaux qui sont des noyaux dits assez légers, c'est-à-dire des noyaux qui ne sont pas trop gros, trop lourds. Et ces noyaux, lorsqu'ils deviennent radioactifs, ont des temps de vie relativement lents. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas la centaine d'années. Et donc, si ces matériaux, on les met dans des lieux où ils sont à l'abri de la curiosité des gens, eh bien, au bout d'une centaine d'années, on pourra les récupérer et les réutiliser pour construire un nouveau réacteur sans problème.
Et ceci est une hypothèse ou
non,
on le sait ?
Non, ceci est une certitude. Ce qu'on ne sait pas encore exactement, c'est l'intensité de la radioactivité qui sera créée. Elle va dépendre du type de métaux qu'on va mélanger pour fabriquer les murs, autrement dit des alliages qu'on va être capable de réaliser ou des matériaux composites qu'on va être capable de réaliser et des différents types d'éléments qu'on va utiliser pour les fabriquer. Si on arrive à limiter le nombre de noyaux qui deviennent effectivement radioactifs avec des temps de vie assez longs, eh bien, on pourra peut-être réduire la radioactivité à quasiment rien. Mais tout ça, ce sont des hypothèses. On n'a pas encore réussi à le faire.
On a bien compris la grande puissance de cette énergie nucléaire de fusion. Y a-t-il un risque pour qu'on l'utilise à des fins d'armement ?
Alors, ça aussi, c'est une question embarrassante. C'est effectivement un certain nombre de critiques qui sont faites à la fusion vient du fait que les réactions de fusion produisent des neutrons de très forte énergie. Et ces neutrons de très forte énergie, ce sont eux qui vont rendre les matériaux radioactifs dans le fonctionnement normal des réacteurs. Mais ce pourrait être aussi ceux qui permettraient la transmutation de noyaux lourds, ceux-ci, comme l'uranium, le plutonium, etc., et qui, dans ces conditions, peuvent se transformer en des matériaux fissiles utilisables à des fins militaires. Alors, ça, c'est une vérité, on n'y peut rien. Personne ne l'a encore fait, personne n'a encore envisagé de le faire. Disons, la garantie qu'on peut obtenir tout de même, c'est que si on arrive à imposer une inspection systématique de toutes les installations nucléaires de fusion, par exemple par l'organisme de contrôle de Vienne, eh bien, il sera très facile de s'assurer qu'il n'y a pas de matériaux d'uranium ou de matériaux lourds qui sont entreposés autour du réacteur de fusion et qui pourraient se transformer en matériaux fissiles utilisables à des fins militaires. Donc, il faut admettre que l'inspection est possible. Mais de toute façon, si l'inspection n'est pas possible, c'est très facile de faire une arme nucléaire. Donc, soit on admet qu'il y a inspection de tous les sites nucléaires, et à ce moment-là, faire des armes avec la fusion est totalement impossible, soit on n'a pas réussi à imposer partout l'inspection des sites nucléaires, auquel cas, ce n'est pas la peine de passer par la fusion pour faire des armes. Il y a des méthodes qui sont beaucoup plus simples. Et donc, de ce point de vue-là, à mon avis, la fusion n'apporte pas grand-chose comme danger supplémentaire en ce qui concerne la prolifération nucléaire, bien que le tritium soit utilisé en toute petite quantité dans les bombes, dans les armes thermonucléaires. C'est une toute petite quantité, donc c'est pas la peine non plus d'utiliser un réacteur thermonucléaire pour fabriquer ces petites quantités. Jusqu'à présent, beaucoup de gens ont réussi à faire des bombes transportables par fusée avec du tritium dedans, sans qu'aucun réacteur thermonucléaire n'ait produit le moindre gramme de tritium. Donc je ne crois pas, à mon avis, que la fusion puisse être considérée comme un élément proliférant.
Alors finalement, Guy Laval, la question qu'on pourrait se poser avec toutes ces questions, ces hypothèses, on a brossé bien sûr un panorama en demi-teinte, mais avec quand même pas mal d'inquiétudes. Finalement, l'énergie nucléaire de fusion, mais à quoi ça sert? On a déjà l'énergie nucléaire de fission avec nos réacteurs nucléaires actuels. Pourquoi aller plus loin si ça pose autant de problèmes et autant de questions?
L'énergie nucléaire de fission qu'on utilise aujourd'hui utilise donc de l'uranium légèrement enrichi, et cet uranium n'est consommé que de manière très partielle. La quantité d'uranium qui est effectivement brûlée dans les réacteurs à eau pressurisée qui forment le parc nucléaire d'EDF, cette fraction est très petite. Ce qui veut dire que, en fait, on utilise très mal l'uranium dont on dispose. La conséquence, c'est que si on voulait aujourd'hui, d'un seul coup, dire, eh bien voilà, on n'utilise plus le pétrole, on n'utilise plus le charbon à cause des problèmes de gaz à effet de serre, et on n'utilise plus que les réacteurs à fission eau pressurisée comme ceux qui font partie du parc EDF, eh bien, en quelques dizaines d'années, l'uranium disponible disparaîtrait et nous ne pourrions plus l'utiliser pour fournir de l'énergie au réseau. Donc le problème, il est là, c'est que les réacteurs actuels sont des réacteurs qui gâchent une quantité énorme de combustible nucléaire. Alors, il y a une autre solution qui a été proposée, qui a même été mise en œuvre, qui est la solution de ce qu'on appelle les surgénérateurs, qui a donné lieu à la construction d'un réacteur qui s'appelle Superphénix, qui a fonctionné malheureusement pas très bien pendant quelques temps, puis qui a été arrêté, et qui, lui, avait pour objectif d'utiliser beaucoup mieux le combustible nucléaire, de telle sorte que, dans ces conditions, on avait des réserves pour 1000 ans ou 2000 ans. Donc, on était tranquille pour, en tout cas, un bon moment, en tout cas suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps de mettre au point la fusion. Et malheureusement, ces réacteurs, donc, n'existent plus aujourd'hui, ou très peu. Il y en a encore quelques-uns qui continuent à fonctionner en URSS, au Japon. Mais leur conception est très difficile, très compliquée. Et l'espoir de pouvoir remplacer les réacteurs actuels par ce type de surgénérateur n'a pas beaucoup plus de base solide que la fusion. Les gens prétendent que vers 2040-2050, on pourra peut-être mettre en œuvre ces réacteurs à grande échelle. Mais pour l'instant, on n'a pas de calendrier précis avec un fonctionnement sûr qui existe. Donc, la fusion, on ne peut pas tirer un trait sur la fusion parce que nous n'avons pas encore l'assurance que ces réacteurs, avec le passé tout de même qu'ils ont, puisqu'on a arrêté Superphénix par rejet, une des raisons qui a été invoquée, il y en a certainement d'autres, mais une des raisons qui a été invoquée, c'est un rejet de la part de la société vis-à-vis de ces réacteurs. Donc, est-ce que le même rejet va se reproduire quand on va construire la nouvelle génération de réacteurs? On n'en sait rien. En tout cas, il serait extrêmement imprudent aujourd'hui de faire une croix sur la fusion qui resterait le dernier recours si jamais on ne pouvait pas avoir accès à ces réacteurs qu'on appelle réacteurs de quatrième génération et qui permettraient de beaucoup mieux utiliser le combustible. Donc, c'est la raison essentielle qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas imaginer tirer un trait sur la fusion avant d'avoir vérifié qu'elle ne marche pas.
Surtout dans un contexte de pénurie d'énergie fossile, l'énergie nucléaire de fusion peut-être a encore plus d'avantages qu'il y a encore 20 ans ou 30 ans.
Absolument, absolument. Parce que c'est vrai que si on pouvait utiliser les énergies fossiles sans limite, eh bien les réserves en charbon sont tellement énormes qui subsistent, qu'on pourrait, en tout cas, avoir pas mal de temps pour réfléchir à d'autres solutions.
Dernière question, Guy Laval, avant de terminer cette émission. Vous citez dans votre livre Gaston Bachelard, très souvent, philosophe des sciences. Alors, pourquoi vous le citez aussi souvent et que pensez-vous qu'il aurait pu dire concernant la fusion nucléaire, la recherche en tout cas sur la fusion?
Alors, c'est une question que je ne me suis pas posée, donc je n'ai pas beaucoup réfléchi, mais... qu'est-ce qu'il aurait pu dire Gaston Bachelard? Il aurait probablement analysé la manière dont ses recherches ont été menées avec les outils qu'il avait forgés lui-même à savoir ce qu'il appelait les obstacles épistémologiques, qui sont donc des idées qui sont fausses, en fait, qui encombrent en quelque sorte le raisonnement des gens qui réfléchissent à un problème scientifique, mais qui finissent par être surmontés et qui ouvrent de nouvelles voies. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois un effet qui peut ralentir l'accès à la réponse à une question donnée, mais d'un autre côté, s'ils n'étaient pas là, on ne serait peut-être pas posé la question. Et c'est par exemple le cas du Soleil pour la fusion, et qui finalement, c'est grâce au Soleil qu'on s'est posé la question de faire fusionner des atomes dans les années 30. Et ensuite, cette présence du Soleil comme élément stimulant pour faire la fusion est restée active jusqu'à ces derniers temps. Et pourtant, il n'y a aucun rapport entre la fusion en laboratoire et ce qui se passe dans le Soleil, sinon le nom des réactions qui se produisent dans le Soleil et en laboratoire, qui sont tous les deux des réactions de fusion entre noyaux, mais qui font appel à des physiques complètement différentes, à des échelles de temps qui n'ont rien à voir. Et les recherches qui sont faites sur la fusion en laboratoire n'ont aucune influence sur les modèles de combustion des éléments du Soleil par la fusion dans le Soleil. Donc, je pense que Bachelard se serait régalé en prenant la fusion comme exemple pour montrer comment, finalement, une idée fausse peut être très stimulante et peut, en tout cas, motiver des vocations pour travailler sur un domaine donné. Je suis certain que beaucoup de gens ont été fortement influencés par cette évocation du Soleil associée à la fusion. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on continue, même aujourd'hui, à utiliser cette parenté.
Eh bien, je vous remercie, Guy Laval, de nous avoir rendu visite. Je rappelle le titre de votre livre, « L'énergie bleue, histoire de la fusion nucléaire », paru aux éditions Odile Jacob en 2007. Merci beaucoup, et puis à une prochaine fois.
C'est moi qui vous remercie.